Samichtein, bonjour.
Bonjour.
L'expérimentation est vraiment au cœur de votre pratique, que ce soit par le biais des expositions, par le biais de l'édition, des récits que vous racontez. C'est vraiment un mot-clé dans votre œuvre, l'expérimentation.
Alors, justement, c'est un mot avec lequel j'ai un peu de mal, puisque en faisant référence à un cinéaste dont j'ai oublié le nom. À qui on posait cette question, disait à partir du moment où on dit expérimental, c'est ce qui n'est pas fini, alors qu'on peut considérer que j'essaie de faire des choses finies. Mais bon, après, c'est vraiment jouer sur les mots. En tout cas, je dirais, je pourrais employer tentative, essayer. Bon, il y a quand même l'expérience, évidemment, qui m'intéresse. Et puis, là, essayer de renouveler les choses, de tenter des nouvelles choses. Ouais.
Dans un entretien accordé à ActuaBD, vous disiez, je vous cite, pour chaque publication, j'essaye de trouver la forme adéquate ou de faire briller le système graphique ou narratif que j'avais mis en place dans le précédent projet. C'est dans ce sens-là aussi que je disais expérimental, c'est de ne pas creuser dans une certaine voie, mais en tout cas de toujours essayer d'être en état de recherche et toujours trouver des nouvelles façons de raconter en utilisant effectivement le dessin et en utilisant le dessin, le texte et d'inventer de nouvelles formes.
Bah oui, c'est vrai que j'ai tendance à pas vouloir refaire le livre que j'ai fait avant. Bon, quand je parle de livre, je parle aussi en termes de nouvelles, puisque moi je fais beaucoup de récits courts, donc principalement d'ailleurs. Et c'est vrai que dès que j'ai fini un récit, quand je m'y remets quelques semaines ou mois plus tard, j'essaye de faire, pas forcément le contraire, mais en tout cas de trouver quelque chose qui change, même si c'est le ton d'un personnage ou un système graphique ou un système de dialogue, j'essaye que ça soit différent du précédent.
Visage du temps, c'est le dernier livre qui a été publié, c'était en novembre 2020 aux éditions Matière, et c'est précisément ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est un livre qui réunit 17 récits courts que vous aviez précédemment réalisés, des récits de longueur variable. Quand on vous présente comme auteur de bande dessinée, certains interrogent ce que signifie, ce que veut dire la bande dessinée. Est-ce que la bande dessinée dans votre parcours d'artiste a été le déclencheur de cette envie de création? Est-ce que c'est par la bande dessinée que vous êtes arrivé à la narration graphique que vous faites aujourd'hui, à la bande dessinée que vous réalisez aujourd'hui? C'est cet art-là qui vous a donné envie d'être un artiste?
Je m'avais jamais posé cette question. Je sais pas d'où vient cette envie. J'ai tendance à être un peu embêté par le retour à l'enfance en disant quand j'étais petit, je lisais beaucoup de bandes dessinées, je lisais Astérix, Tintin, etc. C'est pas trop ces réponses-là qui m'intéressent. Donc moi j'ai fait à la place du bac, j'ai fait un brevet de technicien de graphiste, à l'époque on disait ça. Puis après j'ai fait les beaux-arts et dans ces moments-là je faisais pas de bande dessinée, je me l'autorisais pas en fait, je pensais que j'en étais pas capable, mais c'était toujours quelque chose qui m'intéressait, que je regardais, mais ça m'empêchait pas d'être intéressé par plein de médiums différents comme la peinture, l'art contemporain, la performance, la musique. Et je dis souvent à par exemple, des étudiants, des étudiantes, quand je donne des cours qui veulent faire de la bande dessinée, je leur dis surtout regardez autre chose et inspirez-vous d'autre chose. Regardez le cinéma, écoutez de la musique, regardez de la peinture, des installations en fait. Et pas forcément le médium même qu'on veut faire. Donc les envies, elles sont venues progressivement. À un moment donné où finalement on m'a proposé de faire une exposition à Angers et j'avais un budget pour faire un catalogue, et plutôt que de faire un catalogue, je me suis dit c'est le moment, je vais essayer de faire une bande dessinée. Je suis parti comme ça en improvisant, j'ai fait une bande dessinée de 120 pages à peu près, et à partir de ce moment-là je me suis dit ok, je suis capable de faire ça, et c'est ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parmi différents médiums, donc j'avais envie d'y aller.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce médium-là par rapport aux autres? C'est justement l'association de l'image et du texte, c'est tout ce que ça permet, même si effectivement il y a plein d'autres d'autres médiums qui permettent de la recherche et qui permettent une inventivité folle, mais c'est ce lien particulier entre l'image et le texte qui vous intéresse dans la bande dessinée.
Il y a d'une part oui, c'est un des points qui m'intéresse, mais le point principal c'est la narration, je pense, qui peut être justement muette aussi, et c'est organiser des images et là je vais faut que je reprenne. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est vrai que c'est cette notion-là, c'est aussi le texte accompagné d'images, mais aussi la narration peut être muette. Donc, il faut que je recommence encore une fois. Parce que est-ce que tu peux reposer la question ?
Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce médium-là, dans la bande dessinée ? C'est l'articulation, le jeu qu'il peut y avoir entre l'image et le texte. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de continuer à faire de la bande dessinée ?
Alors d'une part, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup l'organisation de l'image et du texte, qui pour moi, la bande dessinée, c'est du design graphique. En fait, je comprends pas d'ailleurs pourquoi les auteurs ou les autrices de bande dessinée et les étudiants et étudiantes s'intéressent pas plus au design graphique, puisque c'est pas autre chose, formellement en tout cas, que associer des images et du texte. Mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, je pense que c'est la narration, puisqu'elle peut être muette aussi. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur médium pour raconter des choses, que ce soit des récits ou des sensations. On peut faire des choses abstraites aussi, que ce soit dans le dessin ou dans la narration. Et je m'intéresse à beaucoup de formes en fait, de bande dessinée, dont certaines qui ne sont pas déclarées, qui ne se déclarent pas bande dessinée, comme des notices ou des... je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais... Donc c'est vraiment la narration, et puis il y a aussi la composition, puisque la composition d'une page de bande dessinée, elle est c'est pas la même chose qu'une animation. Souvent des gens, pour certaines de bandes dessinées très formelles, des gens me disent: ah mais tu devrais faire des animations, tu devrais faire des gifs, et je dis mais surtout pas, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir une page composée, et quand je fais une pyramide qui se transforme en boule en 12 cases, eh ben, c'est pas pareil de le voir en animation. Et quand je regarde une page, je vois le début et la fin en même temps, et l'œil circule en fait dans toute la page. Et une planche, c'est vraiment une composition, c'est comme un tableau, c'est comme une page aussi composée avec de la typographie. Enfin voilà, c'est la composition aussi. Donc composition, narration, récit, dessin, texte, voilà, tout ça m'intéresse. En fait, toutes ces choses-là me passionnent, donc finalement, la bande dessinée, il n'y a pas meilleur médium. J'en aime plein d'autres, mais pour faire des choses et puis en découvrir.
Et vous parliez de ce tout premier catalogue d'exposition de 120 pages, ce moment où vous êtes autorisé à faire de la bande dessinée. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, vous faites plutôt des récits courts. Qu'est-ce qui vous plaît dans les récits courts ? C'est justement une certaine intensité d'une attention qui n'est pas prolongée, en tout cas qui est vraiment un condensé d'énergie sur un temps donné. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces récits courts ?
C'est vrai que on peut le dire que c'est peut-être plus d'intensité, mais il y a aussi une manière de travailler que j'ai mis au point sans vraiment la vouloir ou la chercher, qui fait partie de ma manière de méditer. C'est-à-dire que, donc là, vous parlez du livre, de mon dernier livre qui est sorti il y a un an, mais en fait, depuis j'en ai fait 4 ou 5 peut-être, je sais pas, j'en ai fait un il y a une semaine en fait, que je n'ai pas encore vraiment montré, mais... puisque je fais beaucoup d'auto-édition notamment avec des contraintes de temps, puisque je fais beaucoup de salons d'édition aussi, et quand il y a un nouveau salon, je me dis ah, vite, il faut que je fasse une nouvelle publication, et donc ça m'invite à pas trop faire des récits de 100 pages, parce que j'ai pas le temps. Et vite, faut imprimer, faut relier et tout ça. Et là, récemment, il y avait le salon off-print qui était organisé dans plein de lieux différents. Donc, moi, j'ai co-organisé avec des amis le salon à la Villa Belleville, où j'étais en résidence pendant 6 mois, en compagnie de Séverine Basquer de l'Institut Sérigraphique, avec qui je travaille beaucoup. Et le matin même, le matin du salon, le salon commençait à 11h, et à 10h, j'étais dans le bureau de la villa en train d'imprimer en laser une nouvelle publication de 20 pages. Parce que je voulais avoir quelque chose de nouveau à proposer. Donc il y a aussi cette pratique qui fait que je fais pas des récits de 100 ou 200 pages. Après, ça me fait un peu fantasmer de temps en temps, Et il y a un truc que je trouve étrange, j'en parlais hier avec un ami qui fait de la bande dessinée, qui est aussi musicien, Étienne Siquier. Et lui, qui est beaucoup plus jeune, qui sort des Arts Déco. Je lui disais, mais c'est marrant parce que finalement, dans la musique, un album, enfin dans la musique, on va dire pop, entre guillemets, un album est composé de plusieurs morceaux qui, des fois, n'ont rien à voir les uns que les autres. Et on ne dit pas aux musiciens, attends que tu n'as pas fait une pièce d'une heure, tu n'as pas vraiment fait un truc, quoi. Alors que j'ai l'impression qu'en littérature et qu'en bande dessinée, si tu n'as pas fait ton gros bouquin de 200 pages, tu n'es pas vraiment un vrai auteur, une vraie autrice. J'ai cette sensation-là. Bon, après, moi, ça me touche pas trop, enfin, c'est pas grave, mais en tout cas, je fais tout le temps des nouveaux livres. Et quand je vois finalement le livre que j'ai sorti chez Matière, donc Visage du temps, qui est une compilation de comme vous disiez, 17 récits, qui sont parus parfois dans des revues étrangères ou que j'ai moi-même autopublié. Finalement, ça représente entre 2014 et 2018, je crois, et on n'a pas tout mis, puisque j'ai pas mis du tout de BD formel, ce que j'appelle formel. Et ça fait presque 300 pages, donc voilà, c'est ce que j'ai produit en quelques années. J'aurais pu faire des grands récits, quoi.
Oui, et puis il y a des échos forcément entre ces récits, c'est-à-dire que de la même façon, je file la métaphore, mais d'un album où on a des titres qui se répondent, qui forment un tout dans ce recueil, finalement, il y a des échos, des explorations de musées, des choses qui sont très cohérentes ensemble.
Oui, et puis je me prive pas de mettre des petits échos en fait effectivement de l'une à l'autre pour que des lecteurs, des lectrices puissent s'ils lisent un peu tout on va dire dans la même semaine peut-être ils se disent ah ben tiens j'ai peut-être déjà vu cette sculpture qui se retrouve là, peut-être je l'ai déjà vu dans 100 pages auparavant parce que voilà c'est une petite référence, auto-référence donc oui, c'est vrai qu'il y a des, il y a des, il y a, je crée, il y a des liens, forcément.
Et vous disiez tout à l'heure que vous encouragiez les étudiants à ne pas s'intéresser qu'un seul médium, en tout cas s'ils voulaient faire de la bande dessinée, à ne pas lire que de la bande dessinée, mais bien évidemment aussi aller au cinéma, écouter de la musique, aller voir des expositions de sculptures. Ça me fait penser, même si il n'y a pas de lien direct, à une des deux revues que vous co-dirigez, la revue Collection, où ce sont des entretiens avec
Oui.
des artistes contemporains. Est-ce que cette pratique-là aussi, en tout cas cet intérêt pour d'autres artistes, le fait de publier des entretiens, c'est quelque chose qui nourrit votre propre pratique? Est-ce que ces échanges-là, ou en tout cas le fait de les publier, c'est quelque chose qui vous nourrit aussi, vous, dans votre propre art?
Je sais pas si ça me nourrit pour ce que je fais exactement, mais c'est quelque chose qui me passionne. Dans tous les cas, le travail des autres m'enrichit, enfin en tout cas mentalement. Donc c'est une pratique qui fait partie de tout ce que des diverses activités que j'exerce et auxquelles je tiens. Et dès que je trouve quelqu'un intéressant, j'ai envie d'aller l'interroger, d'aller voir ce qu'il y a derrière les dessins ou derrière d'autres pratiques, puisque au départ on était parti avec Collection sur la pratique du dessin. Disons qu'il fallait que chaque artiste qu'on interviewe avait une pratique du dessin entre autres. Et là, depuis un ou deux numéros, on a dit bon, c'est pas non pas qu'on ait fait le tour parce que ce serait impossible, mais en tout cas. Ouvrons-nous, c'est pas grave si quelqu'un fait que des installations ou que de la sculpture ou autre chose. En tout cas, en tout cas, c'est sûr que de regarder des images, regarder des artistes, ça enrichit forcément. Après, inconsciemment, enfin, voilà, c'est comme écouter de la musique tout le temps, ça laisse des choses en tête, donc forcément, ça influe, je dirais. Mais après, moi, j'aime pas trop parler d'influence ou
Oui, et puis c'est jamais quelque chose d'aussi direct.
Voilà,
Ça
c'est
va
ça.
être une parole qui d'un seul coup va résonner à un
Oui,
moment
c'est ça.
donné, d'une façon particulière,
Oui, c'est
mais.
ça. Puis après, c'est certain que la discussion amène à des réflexions. Donc, que ce soit dans ce cadre-là ou dans d'autres, j'aime assez parler de ces pratiques-là et de tout. D'ailleurs, j'aime beaucoup parler.
Et je disais une des deux revues, puisqu'il y a la revue Lagon. Également, où là ça n'a rien à voir puisque ce ne sont pas des entretiens mais ce sont justement des histoires courtes. Je ne sais pas combien de pages ça fait le dernier numéro, mais en tout cas c'est assez conséquent. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette aventure Lagon qui est née, je crois, à Angoulême il y a quelques années et l'objectif que vous poursuivez à travers cette publication? Je crois que plus de 1000 exemplaires qui sont tirés de chaque numéro.
Oui, là, le dernier numéro qui s'appelle Torrent, puisque c'est une revue qui change de nom à chaque numéro, il a été tiré à 1200 exemplaires et on l'a vendu assez rapidement. Il a été épuisé en fait, en 2 mois cet été. Il est sorti en juin, puis là, il n'y en a plus du tout. C'est une grande aventure qui a commencé effectivement à Angoulême où on a rencontré, j'étais avec donc Séverine Basquaire, on a rencontré Alexis Beauclerc qui lui sortait de une revue collective qui s'appelait Belles Illustrations qui a été montée aux Arts Déco de Paris avec tout un tas de gens de sa classe. Et il avait envie de continuer à faire des revues. Puis voilà, on se connaissait pas, on connaissait le travail chacun l'un de l'autre, mais on n'avait pas, on ne s'était jamais rencontrés. Puis à ce moment-là, on a discuté un quart d'heure, on a échangé 2 mails en revenant, et puis on s'est dit, allez, faisons quelque chose. Lui, à l'époque, avec Bettina Heini, avait un atelier de Rizzo. Donc la Rizzo, c'est une imprimante de marque japonaise qui servait avant beaucoup pour les entreprises ou même les églises, les curés imprimaient les programmes. Qui a été redécouvert il y a quelques années, beaucoup par des artistes, des designers graphiques, pour faire des publications à bas prix, plus ou moins. Maintenant, ça a augmenté, j'ai l'impression. Enfin bref, il avait cette possibilité d'imprimer. Et de notre côté, Séverine Basquaire avait l'atelier de l'Institut sérigraphique, donc la sérigraphie. Et on s'est dit, ben, finalement, à 4, on peut être autonome. On peut publier des gens, imprimer, façonner, puisqu'Alexis et Bettina avaient un atelier aussi de reliure, enfin des petites machines, pas grand-chose, mais de quoi en tout cas de quoi faire une revue. Et ils avaient du papier en trop, ils devaient déménager dans les 6 mois, donc on s'est dit, bon, ok, on a 6 mois pour utiliser ce papier et contacter des artistes, des auteurs, des autrices. On s'est tout de suite entendu sur la direction qui était... nos choix personnels, mais qui étaient de la bande dessinée qui regardait aussi ailleurs justement que sa propre pratique et de la bande dessinée avec des gens qui font des tentatives, qui essayent des choses qui sont pas dans un rapport très classique au médium. Et même si on peut trouver parfois dans Lagon des vrais récits entre guillemets vrais. Ma langue a fourché, là, c'est vraiment pas bon de dire ça. Des récits, on va dire, plus classiques avec des personnages qui discutent, des actions, etc. Il y a toujours un détail ou un ton ou quelque chose qui fait que ça reste un peu étrange, bizarre, ou ça va dans une direction à laquelle on n'est pas habitué. Voilà, donc on a commencé cette chose-là un peu naïvement. Mais avec une fraîcheur aussi, en disant bon, on avait chacun des expériences de revue, donc on savait aussi comment les choses pouvaient fonctionner, mais tout de suite est venue l'idée que s'il y avait un deuxième numéro, puisqu'on ne savait pas du tout au début, il n'aurait ni le même nom, ni le même nombre de pages, ni les mêmes invités, ni les mêmes formats, pour ne pas tomber tout de suite dans l'idée d'une revue où on fixe un format et puis après on va continuer au fil des ans à dérouler un peu. Un système évidemment le premier numéro ça nous a beaucoup plu de faire ça donc on a décidé de continuer d'augmenter, de prendre d'autres d'augmenter les tirages, de faire appel à d'autres techniques comme de l'offset voilà, augmenter les tirages c'était pas une idée de nous enrichir puisque c'est une revue qui ne rapporte presque rien mais dans laquelle on essaye de payer tout le monde et d'augmenter tous les gens, les auteurs, les artistes à chaque fois. Mais
et vous êtes aperçu que ça répondait vraiment à un besoin justement, j'allais reprendre le mot expérimentation qui n'est pas bon, mais le fait d'avoir déjà d'être entouré, c'est-à-dire d'avoir d'autres personnes avec soi pour produire quelque chose et d'avoir un lieu où on peut justement publier ce type de récits qui ne sont pas des récits classiques comme vous disiez, qui ne sont pas forcément ce qu'on attend. Quand on parle de bande dessinée de manière plus classique, vous avez ressenti qu'il y avait un vrai besoin aussi de la part des artistes d'avoir ce type de revue qui offre cette liberté-là.
Un besoin, je sais pas, je sais jamais si c'est les gens si c'est la proposition qui crée le besoin, ou si c'est le besoin qui crée la proposition. Donc je pourrais pas le dire. Nous, on arrive comme ça avec une proposition en tout cas. y avait, qui était la nôtre. On ne savait pas trop où on allait, on n'a pas réfléchi pendant des heures sur ce qu'on voulait faire, puisque c'était assez instinctif et surtout on n'avait pas le temps. Encore une fois, il y a une histoire de timing à réaliser. Il ne s'agissait pas de réfléchir pendant 2 ans à faire quelque chose, mais plutôt de dire, OK, on est dans le feu de l'action, on y va. Et puis dans 6 mois, d'ailleurs, on l'avait dit aux personnes à qui on proposait, on a dit, ben, par contre, il n'y aura pas de retard possible. Si vous voulez faire quelque chose avec nous, c'est maintenant. Et dans 6 mois, il faut rendre les pages, sinon ça sera cuit. Ils sont tous été presque pas en retard. Hein. Tous et toutes. Et
Et
puis
aujourd'hui, ça
après,
continue.
voilà, ça continue. Alors après, on a. Évidemment, je dis, on n'a pas réfléchi, on n'a pas réfléchi sur le premier numéro. Après, on a eu voilà, des heures et des heures de discussion, de qu'est-ce qu'on pouvait mettre dedans, qu'est-ce que ça voulait dire. On a réussi à augmenter un peu les tirages, puisque pour nous, cette idée de la diffusion, voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est on se disait, plus on peut diffuser notre vue, mieux c'est pour les artistes, pour nous, pour voilà, faire connaître un petit peu des gens. Et on a toujours publié dès le début des personnes qui étaient installées, on peut dire, enfin j'aime pas trop ce mot, mais je sais pas comment le dire, connues, c'est pas tant plus terrible, et puis des gens qui étaient encore étudiants, étudiantes, voilà, on s'est jamais limité à un type d'artiste, d'auteur, d'autrice, on a toujours aussi fonctionné plutôt par clash que par ressemblance, donc plutôt essayer de trouver plein d'esthétiques différentes, puisqu'on est attiré par beaucoup de choses très différentes. Mais et donc après ça, voilà, ça a continué, ça a pris différentes formes. On a pu y aller avec cette revue aussi, elle nous a ouvert un petit peu les portes de salons un peu lointains. Donc c'est assez exaltant d'aller faire des salons. Alors c'est un peu cliché, mais d'aller faire des salons à New York, à Tokyo, à Shanghai, avec cette revue. Après, je précise toujours que c'est pas, on n'a jamais été invité, donc c'est payer les billets de train avec notre argent, les billets d'avion, etc. Et puis cet été, pour continuer finalement l'aventure, on a fait, comme les salons depuis 2 ans étaient, il n'y avait plus de salons, étaient fermés, et que nous on a sorti cette revue en juin, on a eu envie, en tout cas avec, nous on était moins occupés, moi et Séverine, on a eu envie de faire une tournée, de montrer cette revue autre part que de faire un lancement à Paris et puis comme on faisait traditionnellement, mais après il y avait toujours des salons pour montrer la revue. Donc on a organisé en un mois une tournée de l'été comme un groupe un peu pour l'organiser. Et on s'est retrouvé, donc on a contacté tous les amis, les gens qu'on connaissait à droite à gauche, et on s'est retrouvé à faire une tournée en voiture avec donc dans des endroits aussi varié que le Frac Lorraine, par exemple, qui est une institution, mais aussi un ancien laboratoire de toilettes sèches, un coiffeur, l'arrière-cour d'un coiffeur à Brest, des ateliers collectifs à Uzerche ou à Bruxelles. Enfin, beaucoup d'endroits, en fait, très différents, avec l'envie toujours de partager le livre, puisque comme il est très axé sur l'impression aussi, et sur les choix éditoriaux, mais aussi beaucoup sur l'impression, puisqu'il y a des encres spéciales, de l'argenté, des fluos, il y a des mélanges de couleurs, il y a différents papiers dans la revue, il y a 4, 5, 6 papiers dans la, 4 ou 5 papiers différents dans la revue. La couverture qui est imprimée en encre végétale cette année, que Séverine a créée. Je me suis perdu un petit peu. Voilà, la revue, elle existe aussi vraiment à travers son aspect, sa matérialité. C'est-à-dire que on n'a pas, il n'y a pas une version numérique de cette revue, ça n'existe pas. Il faudrait qu'on scanne tout et encore l'argenté n'existe pas sur l'écran, par exemple. Donc il y a vraiment une idée d'aller montrer ça. Et puis aussi à chaque fois, on essaye de, pour chaque année, de sortir une partie des images du livre pour en faire une exposition. Et plutôt que montrer les originaux, parce que c'est pas quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans ce cadre-là, et puis même en général, les originaux de bande dessinée, moi ça m'intéresse pas beaucoup. Surtout peut-être plus en plus de gens qui font de la bande dessinée sur ordinateur, donc faire des tirages, pas très intéressant. Mais par contre, cette année, on a fait tricoter des pages donc qui font 2 mètres de haut, voilà, du tricotage industriel. Donc on a sorti comme ça entre 5 et 10 pages qui n'ont rien à voir, qui sont complètement pixelisées avec de la laine. Et on a voilà, montré ça et puis quelques autres choses. Donc voilà, c'était l'idée d'aller à la fois montrer la revue, puis montrer autre chose. Et puis à chaque fois, on avait aussi parfois un petit concert ou une performance ou une expo. Il y avait des différentes choses.
Il y a quelque chose justement de très, j'allais dire, de très humain, ou en tout cas d'avoir, il y a l'envie de ce rapport au lecteur, mais aussi aux artistes avec lesquels vous travaillez, qui est quelque chose de l'ordre du partage. En tout cas, il y a quelque chose qu'on sent très fort, je trouve, à la fois quand vous en parlez et quand on regarde ce que vous faites, de cette envie justement de vous déplacer, d'aller à la rencontre des gens et de surtout pas être dans une posture qui serait voilà, moi j'ai créé, maintenant vous en aux autres de s'en emparer, mais vraiment l'envie, quelque chose qui est extrêmement relié à la fois la création et la façon dont cette œuvre est partagée. Quelque chose qui compte pour vous, de la façon dont ça arrive dans les mains des gens, ou de la façon dont les gens vont être touchés, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, dont l'œuvre va arriver dans l'orbite des gens.
Bah, oui, c'est vrai que c'est un point qui nous intéresse beaucoup, le partage, mais en général, partager un repas, partager une aventure, partager une soirée, partager une nuit, partager plein de choses, ça revient et ça ne part pas. Pour la revue, c'est vrai que... le fait de se déplacer comme ça, c'était aussi intense que d'aller à Shanghai, par exemple. Et des fois, il y avait 10 personnes qui venaient au lancement, mais voilà, on avait quelqu'un qui nous disait, ah ben moi je suis en vacances avec mes parents, à 1 heure j'ai pris un bus, je suis venu. Il y a des gens qui nous disent, bah, nous on est venu à 4, on a pris une voiture, on habite à une demi-heure, il n'y a jamais rien qui se passe dans le coin, ben, on était contents de voir ça. Et finalement, discuter avec 4 personnes pendant 1 heure, ben, c'est des fois plus intense que d'avoir un lancement. Enfin, c'est aussi intense que d'avoir un lancement à Paris où il y avait 200 personnes. Et il y a des amis que j'ai aperçus, à qui j'ai même pas pu parler parce qu'on était aussi en train de vendre la revue et tout ça. Et donc, c'était aussi une super expérience de faire ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu aussi assez naturellement dans l'aventure, puisqu'on a pris la diffusion dès le début à bras-le-corps, puisqu'on fait une revue, on va dire, imprimée de manière un peu luxueuse, mais qu'on veut vendre au plus bas prix, puisqu'on veut que ça soit le plus accessible possible. Et donc on a dû se passer dès le début de diffuseur. On n'a pas du tout envie de se passer des libraires, puisque les librairies, c'est vraiment des endroits où on aime aller, où on découvre des choses. Donc on veut vraiment que ça soit diffusé. Donc on travaille avec une cinquantaine de libraires dans le monde, à peu près, on va dire. Mais c'est vraiment long et fastidieux. Enfin, c'est une partie qu'on ne voit pas, mais on diffuse les 1200 exemplaires. On les a diffusés tous à la main. Ça veut dire qu'on a fait 800 cartons de chaque livre. On a envoyé... des cartons partout dans le monde à des gens, et ça c'est ce qu'on appelle une résidence chaque année où on se retrouve avec plusieurs personnes de l'équipe et on fait que ça, et c'est quand même assez pénible et fastidieux d'envoyer tous ces livres, de répondre aux mails, de faire de la diffusion, mais en même temps ça fait partie du truc, et on tient un peu à ce côté cet artisanat un petit peu du livre, tout comme on a toujours une partie de façonnage du livre. Au début, on façonnait tout à la main, et puis au bout d'un moment, on s'est arrêté, on ne pouvait plus suivre le rythme. Mais là, cette année, on a plié la couverture, qui est un poster. La couverture sérigraphiée. Alors, c'est anecdotique comme ça, mais quand on plie 10 couvertures, bon, bah ça va. Quand on plie 1200 couvertures, ça devient autre chose, quoi. Faut s'organiser, faut créer un espace, se rassembler. Et ça, on y tient assez aussi. Donc, ça fait partie du projet, quoi.
Et vous parliez de l'étranger, de Shanghai, de New York tout à l'heure. Qu'est-ce qui se joue à l'étranger? C'est justement la rencontre avec d'autres artistes. C'est la perspective de diffuser, c'est pas tellement de diffuser, mais de voir que ce qu'on raconte peut toucher au-delà des frontières. Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi est-ce que c'est si important d'être aussi présent à l'étranger, de pouvoir aller à la rencontre des artistes et des publics autres?
Bah déjà, en premier lieu, ça fait partie de l'aventure, hein. C'est vivre des expériences. Et Bah, on s'est rendu compte aussi dès le deuxième numéro que finalement, comme on a nous les artistes qu'on invite, ils viennent de France, d'Europe, après principalement États-Unis et Asie. Et bah, la Gonce, c'est une revue qu'on vend plus à l'étranger qu'en France. Donc déjà, on sait qu'il y a un public qui s'intéresse à ça à l'étranger. Puis en fait, dans les artistes qu'on invite, il y a quand même une sorte de, pas de globalité, mais il y a plein de gens qui tentent des choses partout, en fait. Et c'est normal de les inviter, de créer des liens. Et on crée des liens, encore une fois, c'est pas réfléchi. Je prends l'exemple de Sonny, qui est une artiste et éditrice taïwanaise, qu'on a rencontrée au fur et à mesure dans les salons, qui est venue aussi en France quelques fois. Et on est devenus amis, mais... À aucun moment, quelques années auparavant, je me suis dit, je vais avoir des amis taïwanais et puis je vais aller chez eux 10 jours, enfin ils vont me recevoir 10 jours et on va aller faire du vélo à la campagne avec eux. Et ils vont me dire, ah ben on va au salon de Shanghai, vous voulez venir? Bah ok, on y va, on vous suit. Donc c'est un peu pas du hasard, mais c'est du suivre un petit peu les. Enfin, c'est suivre. Je sais
Son
pas.
instinct,
Ouais, un
voilà.
petit peu, ou en tout cas dire bah hop on peut faire, ah ben on peut aller là, ben allons-y, on peut aller on peut avoir cette possibilité, on a eu une petite bourse là, on
Mais
peut.
vous faites aussi des résidences à l'étranger, vous en avez déjà faites, en tant que, non pas au titre de la revue, mais vous en tant que Sammy Stein. Dans ces
Ouais.
cas-là, qu'est-ce qui se joue qui est différent de ce qu'on vient d'évoquer, qui est d'être justement ailleurs à un moment donné pour créer, que ce soit en vue d'une exposition ou bien d'une publication. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces expériences-là, vous, à titre personnel, en tant qu'artiste, même si j'ai bien compris que vous pensiez assez peu à titre personnel, mais que justement ce qui vous intéressait, c'était les échanges.
Ben je pense quand même aux expériences personnelles. Ben les résidences, c'est vraiment un moment de pure création. C'est vraiment inspirant dans le sens où on est déconnecté un peu du quotidien, où justement on se retrouve à faire toujours. Enfin, moi je fais beaucoup de choses différentes dans une journée. Et là, c'est enfin un moment où finalement on peut s'arrêter et se dire, bon, ok, on a une semaine ou 2 semaines pour faire un objet éditorial, ce qui est souvent le cas. Enfin, et même si ce n'est pas le but du but premier, moi, je me l'impose toujours d'avoir à la fin une publication. Et donc, c'est aussi ce que je trouve assez intéressant, c'est de s'inspirer du lieu justement, qui soit, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse, les lieux, les paysages dans la pratique que je développe.
Et les lieux, le temps aussi,
Le temps,
beaucoup.
beaucoup, tout à fait. L'espace, le temps, les lieux. Et par exemple, une résidence qu'on a fait, ben, il y avait Séverine Basquer aussi qui était là, à Cali, en Colombie, il y a quelques années. C'était assez génial, puisqu'on s'est retrouvé à avoir juste comme contrainte de faire un objet éditorial en 10 jours. Et. Quand on est arrivé, on ne savait pas où on allait dormir, ni où on allait exactement. Et on nous a dit, ben voilà, il y a une chambre dans un musée, c'est là, c'est ça que c'est là que vous allez aller. Et finalement, ça a été le point de départ à l'inspiration du livre, qui est le récit qui est dans Visage du Temps, qui s'appelle Le Musée de la Tortue, qui est une sorte de faux guide d'un musée, donc en l'occurrence du Museo de la Tertulia, qui était ce musée à Cali. Et pendant tout le séjour, j'ai cru que Tertulia, ça voulait dire tortue. Et en fait, ça voulait dire rassemblement, brainstorming, enfin voilà, un grand rassemblement, le musée du rassemblement. Et donc, dans ma tête, ça a été le musée de la tortue. Donc, j'ai appelé ce récit le musée de la tortue, qui est un faux guide d'un musée inspiré par ce vrai musée. Donc, il y avait des vues vraiment du musée. Il y a des histoires vraies du musée, et puis beaucoup d'histoires fausses, et puis d'autres qui sont vraies et fausses. Et il y a tellement d'histoires un peu étranges là-bas, racontées par le directeur du musée, que finalement j'ai glissé des histoires vraies, mais que je pense que les gens qui lisent ça se disent c'est faux,
D'accord.
c'est impossible. Et en fait c'est vrai. Et donc voilà, ouais, c'était vraiment inspiré par le lieu et par tout ce qu'on y voit. Et d'ailleurs, dans Visage du Temps, dans le livre, il y a à la fin du livre, il y a une vingtaine de pages de notes auquel je tenais, puisque ça explique les contextes dans lesquels ont été faits certains récits. puisque par exemple pour cette résidence là je trouvais intéressant et important pour avoir une deuxième lecture peut-être du récit de voir que par exemple il y a un moment un Farfadet qui accueille les gens à l'exposition et sa tête c'est une sorte de visage très cartoon, très dessin animé. Et j'ai mis une photo de. C'est inspiré d'un. Enfin, c'est même complètement copié d'un paquet de galettas qu'on a acheté au supermarché. Et ça fait partie un peu des choses inspirantes, en fait, plutôt que d'aller voir. Je sais pas quoi, d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut trouver, finalement, dans un endroit. Ça devient.
Et ce jeu sur le vrai et le faux vous intéresse aussi beaucoup. Dans ce livre publié aux éditions Matière, on a aussi cette fausse biographie dans Salut Marcel. Il y a ce jeu toujours sur la frontière de qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui vous intéresse beaucoup.
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup partir de la réalité pour la faire vriller, en fait. C'est un mot que j'emploie souvent, vriller.
C'est un beau mot.
Par exemple, Salut Marcel, oui, c'est inspiré de l'histoire de Marcel Bascoula, qui est un artiste clochard qui vivait à Bourges, qui est mort à la fin des années 70, je crois. Et qui était un personnage vraiment singulier, qui avait fait des choix, bon, qui étaient assez fragiles. Et moi j'ai entendu son histoire à la radio un peu par hasard et ça m'a vraiment assez touché. Donc après je me suis renseigné un petit peu, il y avait un livre qui était sorti au Cahier Dessiné. J'ai plus en tête l'auteur, hélas. Si j'ai un problème de mémoire aussi, je retiens rien. Et je retiens, j'ai même un problème de mémoire des visages puisque ça s'appelle la prosopagnosie, je ne reconnais pas les visages. Et donc Marcel Bascoulard, j'avais envie de raconter sa vie, enfin en fait de faire un hommage à ce personnage que je trouvais passionnant et vraiment touchant, mais j'avais pas envie de faire une biographie classique puisque ça m'intéresse pas trop. Donc j'ai raconté sa vie et quasiment tout est vrai en fait dans le récit, sauf que je lui ai inventé une œuvre au lieu de reproduire son œuvre qui était des aquarelles et des dessins principalement de Bourges, de la cathédrale de Bourges, des marais, etc. Je lui ai inventé une œuvre où il peignait des sculptures à vivre sur des plaques de verre. Et ce qui me permettait aussi de mettre dans ce livre de manière formelle une sorte de catalogue de l'exposition sur le haut de la page et en bas, à peu près un tiers de la page, est juste pris par le récit. Donc ça me faisait plusieurs niveaux de lecture qui m'intéressaient. Puis en plus, dans le récit même, quand on voit les dialogues qui s'échangent, qui sont posés sur les images, ces images-là ne correspondent pas forcément au dialogue en plus, donc ça fait un troisième niveau de lecture. Et le récit raconté au travers un dialogue entre deux amis fictifs qui n'existent pas, de Marcel qui le jour de sa mort, au lendemain de sa mort, en discute en disant « Ah, tu t'as appris qu'il était mort hier. Ah non, je savais pas pourquoi. » Et puis là, il déroule une suite de souvenirs un peu avec nostalgie, puis ils finissent par dire « Tu vas nous manquer parce que c'est triste. » Et puis en plus, il est vraiment mort assassiné, a priori par quelques voyous. Enfin, il se sentait un peu menacé à la fin de sa vie, puis il avait déclaré à la radio. Il a été interviewé par Colaro, un vieux personnage de la télé française qui faisait de la radio à cette époque. Il avait dit, et Marcel Bascoulard avait dit, j'ai un trésor caché. Et en fait, il y a peu de chances que ça soit vrai, on ne le saura jamais. Et c'est peut-être cette raison qui a fait qu'il a été retrouvé mort alors qu'il vivait dans une carcasse de camion dans un terrain vague. Donc il y a peu de chances qu'il ait un trésor, mais bon, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est cette réalité qui passe dans la fiction, et etc. Et l'inverse, c'est des choses qui m'intéressent toujours. Ouais.
Vous parliez d'aquarelles, de sculptures. On parle depuis tout à l'heure beaucoup d'éditions, que ce soit de la micro-édition, de l'auto-édition ou bien de la publication aux éditions Matière de ce recueil de 17 histoires courtes. Une grande partie aussi de votre pratique consiste à monter des expositions. On l'a un petit peu évoqué aussi tout à l'heure avec l'exposition autour de la revue Lagon et ses planches tissées. Qu'est-ce qui vous plaît là encore dans cette pratique? C'est d'aller au public différemment, J'imagine que c'est pas du tout la même façon de penser une œuvre que de l'imaginer exposée ou de l'imaginer imprimée sur une page. C'est vrai qu'il y a ces deux pratiques qui sont que vous menez en parallèle, c'est-à-dire vous montez beaucoup d'expositions et vous publiez beaucoup. Qu'est-ce que la partie exposition vous apporte? En tout cas, qu'est-ce qui vous plaît dans cette partie-là de votre pratique artistique?
Ben, c'est vraiment la mise en espace, puisque c'est complètement différent d'un livre. Après, pour moi, le livre en lui-même, c'est comme une petite exposition portative, on va dire. C'est en tout cas l'ouverture dans un univers, dans quelque chose, de l'ouverture à un imaginaire. Mais mettre en espace, c'est quelque chose qui ouais, me passionne aussi. Et d'essayer de trouver des manières justement de sortir des images d'un livre, puisque c'est souvent la base un petit peu d'un livre. Et de pas surtout pas mettre des planches originales au mur. Et d'ailleurs la plupart des expositions de bande dessinée m'ennuient, même si je vais quand même en voir parce que ça peut ouvrir sur des choses, mais
Regardez le trait, c'est pas quelque chose qui vous intéresse
non,
du
pas
tout.
trop, non, non. Je regarde, je lis les bandes dessinées très vite, après j'oublie tout, j'ai besoin de les relire, mais le trait original, non, me passionne pas. Je préfère le récit dans sa globalité. L'objet, en fait, pour l'original, c'est le livre. En fait, c'est pas un original. Enfin, l'œuvre, pardon, plutôt l'œuvre. D'ailleurs, Yuichi Yokoyama, grand maître de la bande dessinée japonaise, dit ça à un moment. L'œuvre, c'est le livre, et il a bien raison. Donc, il s'agit, quand on fait des expositions, de faire quelque chose de différent. Là, en l'occurrence, on vient de finir une résidence donc à Paris. Donc, pour nous, c'est un peu bizarre d'appeler ça résidence, mais bon, en l'occurrence, c'est appelé comme ça, à la Villa Belleville, et c'est terminé ce week-end par une exposition collective et une exposition de chaque artiste. Et on a créé donc avec Séverine Basquer, toujours de l'Institut Sérigraphique, des livres en céramique. C'est un projet qu'on avait commencé un petit peu timidement il y a quelques années, et qu'on avait mis de côté parce qu'on ne trouvait pas le temps de s'en occuper, et que c'était des livres, on va dire des plaques de céramique qui ont l'air d'un livre fermé, et puis avec souvent un objet en céramique qui en sort, comme une couverture en relief. J'essaie de l'expliquer de manière à ce qu'on comprenne un petit peu. Et puis on voulait développer cette idée de livre avec des pages qui se tournent en céramique, et on a pu concrétiser ce projet avec l'aide des gens de la villa à Belleville, puisqu'il y a des ateliers de bois, de céramique, de gravure, etc. Il y a des ateliers techniques qu'on peut avoir. Et donc on a fait une cinquantaine de livres différents. Alors pas tous à plusieurs pages, mais certains à plusieurs pages. Donc c'est des pages qui pèsent parfois 1 kg ou 3 kg. Donc c'est assez pratique. Et il y a voilà, une volonté là de faire transparaître l'imaginaire du livre dans un autre support, qui est justement pas du tout pratique à lire. Mais pour autant, on voulait pas sacraliser le livre, donc ils sont disposés. Puis il y a une exposition en ce moment qui est encore visible, enfin, qui était encore visible, puisque je pense que quand on écoutera le podcast, elle sera plus visible. En tout cas, il y a une exposition qui était visible, où on laissait les livres sur des tables, enfin, sur une sorte de support qu'on avait peint. Et avec l'idée de dire au public, vous pouvez les manipuler, les livres, vous pouvez les lire. En fait, dedans, il y a des récits, des ébauches de récits, des appels à s'emparer un peu d'un imaginaire. Et c'est manipulable. C'est pas sur un socle où on ne peut pas y toucher. Donc il y a cette manipulation qui nous intéressait. Et puis, l'espace, c'est ça, c'est une autre manière d'appréhender la chose. Mais voilà, je suis pas. Enfin, je me pose toujours question, mais à la même manière que quand je vais faire un nouveau récit, je me pose toujours question de qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans un espace qui va être intéressant, pertinent, qui va emmener le public vers un ailleurs. Je prends un exemple encore d'une résidence que j'ai fait il y a quelques années à Rennes, dans un endroit qui s'appelait la Galerie 126, qui était une maison avec un garage tenu par des jeunes qui étaient pour une part étudiantes aux Beaux-Arts, et puis d'autre part pas du tout, et qui avaient un garage, pas de voiture. Ils se sont dit, on va faire une galerie dans ce garage. Et j'aime bien cette histoire parce que ils se sont dit, plutôt que on va pas inviter un artiste, il vient la veille, on fait l'installation et puis il repart le lendemain du vernissage. Ils se sont dit, on va inviter un artiste à venir en résidence, alors une semaine, 2 semaines, 1 mois s'il peut. Et nous, on va être ses assistants et on va apprendre avec lui. Et je trouve ça c'est assez beau comme idée. Et moi, j'ai pu. Donc, j'étais au courant de ce projet, j'avais des amis qui avaient participé déjà. Et le projet touchait à sa fin après quelques années, puisque cette maison qu'ils avaient eue comme ça, qu'elle allait être détruite ou réhabilitée dans les années suivantes. Ils pensaient qu'ils allaient y rester 1 ou 2 ans, ils y restaient, finalement ça a duré 5 ans, 6 ans, donc au bout d'un moment ils n'avaient plus cette énergie-là pour faire mener à bien ce projet. Et moi j'ai pu intervenir vers la fin, pas la dernière expo mais l'avant-dernière expo, et j'avais envie de parler de ce sujet-là, cette galerie. Donc j'ai raconté l'histoire à travers une fiction qui s'appelle Galerie 128, donc j'ai juste changé finalement un numéro et tout d'un coup la maison passait dans la fiction. Et je raconte aussi à travers les souvenirs des deux artistes curateurs leurs meilleurs souvenirs, leurs meilleures expos, et c'est toujours inspiré d'expositions qui ont existé. Et donc l'idée de cette résidence, c'était aussi de produire une exposition. Et donc là, il y a des photos d'ailleurs en Visage du Temps à la fin. C'est j'ai créé un décor, enfin avec vraiment leur aide à Thomas. Je retrouve les noms. Quentin Chambry et Thomas Delahaye, voilà, très sympathique. On a fait en sorte que la galerie ressemble à une ruine. En fait, l'idée c'était que cette galerie, qu'est-ce qu'elle deviendrait si on la retrouvait dans 100 ans. Donc, il y a des plantes qui ont poussé, c'est complètement détruit. On a toujours laissé les murs blancs pour quand même dire on est dans une exposition, on est dans un décor, on n'est pas dans, on n'essaye pas de faire croire quelque chose, mais en tout cas, on est dans les ruines de la galerie. Et dans ces ruines, on trouvait des peintures ou des céramiques d'artistes qui avaient fait des résidences eux-mêmes, des expositions. Mais on trouvait aucun dessin à moi. Il y avait juste au mur plusieurs exemplaires du livre que j'ai réalisé pendant cette résidence qui raconte cette histoire. Donc c'était voilà, une mise en scène en fait, du livre aussi, de la galerie, etc. Partir aussi de la réalité pour la faire basculer dans la fiction. Dans le décor, voilà, parce que la fiction c'est faux, mais on est au courant, quoi. C'est pas, on essaye pas de faire croire. J'aime pas trop le mensonge, en fait. Je préfère dire directement, je vous raconte une histoire. Donc c'était voilà une mise en espace. Enfin, en tout cas, ça m'intéressait dès le début de proposer autre chose que de mettre, de faire des dessins puis de les mettre au mur. Et voilà, il y en a pas en fait de dessins de moi là-dedans.
Et quels sont les prochaines histoires que vous allez nous raconter, quels sont les projets en cours ou à venir?
Il y a à repartir sur un nouveau lagon, enfin on commence à en parler, mais c'est toujours un peu, on a besoin un petit peu d'une pause entre deux, mais en même temps comme c'est une revue de création, donc on va dire 90% de la revue c'est la pure création d'artistes, d'auteurs, d'autrices. Il faut pouvoir lancer les gens et leur dire bon, ben voilà, vous avez 4 mois pour faire quelque chose, est-ce que c'est possible pour vous de trouver ce temps-là? Donc il y a ça, on a appris récemment qu'on allait faire une expo à Nantes, dans l'espace Mira, c'est une galerie de design, où on va montrer les céramiques, faire des nouvelles sérigraphies. Donc il faut qu'on reproduise en fait tout un tas de choses. Là je sais qu'il va y avoir le festival d'Angoulême d'ici. Presque deux mois. Donc il faut que je réfléchisse à faire quelque chose de nouveau, évidemment, pour cette raison-là. Un nouveau collection qui devrait aussi se réfléchir. Enfin, en tout cas, on a tous voté pour un nouveau numéro. Et puis, alors voilà, c'est le genre de truc auquel je n'ai pas réfléchi avant. Donc ça me vient pas, mais j'ai des listes en fait quand même de projets qui sont. Il y a une résidence aussi à Rennes qui va se passer d'ici 6 mois, qui avait été annulée pendant le premier confinement avec le festival Spéléographie et organisé par notamment Morvan Dieu. J'arrive jamais avec son nom. Dieu. Ok. On pourra couper, organisé par Morvan Dieu et puis d'autres gens qui ont l'air très, très bien. Voilà, quelques dizaines de projets à mettre sur le feu, voilà, à mettre en branle. Et puis avec peut-être aussi la réouverture de certaines frontières, la possibilité de voyager, peut-être d'autres salons. On aimerait bien revenir à faire d'autres salons ailleurs qu'en France. Déjà, en France, on est très content de pouvoir revenir à ces salons, à SOBD. Là, il y a, je sais pas, il va y avoir peut-être le spin-off à Angoulême. Moi, je suis plutôt fidèle au salon off qu'au salon in, selon les endroits. Hein, mais bien que j'aime bien le festival d'Angoulême, enfin, j'y traîne aussi beaucoup. Donc voilà, plusieurs projets sur le feu, quoi.
Super, qu'on a hâte de découvrir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.